20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Bonsoir, le film 1500 impurs du cinéaste Abdelraouf Dafri est à l'affiche aujourd'hui dans les salles en France. Un film qui a cette faculté de dire des choses qui se sont passées durant la guerre d'Algérie sans en faire des leçons de morale. Le film parle entre autres de ces fous sanguinaires de la guerre. Évidemment, lui le dit autrement. Moi, j'ai préféré commencer comme ça. Merci beaucoup, Abdelraouf Dafri, d'être venu. T'as connu en tant que cinéaste, c'est ton premier grand film. On se tutoie, pardon.
Ah, il n'y a pas de souci.
Ah oui, parce que je...
Toi, c'est toi qui décides, c'est selon tes règles.
Allez, on se tutoie, je préfère. Alors, merci en tout cas d'être venu ce soir.
Merci de m'avoir invité.
Pour de nombreux cinéastes, la guerre d'Algérie a toujours été un sujet de prédilection. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, par contre, à porter à l'écran une partie de cette guerre et ses nombreuses, je dirais, variations, parce que tu traites cette guerre différemment ou d'un autre point de vue qui est le tien et qui, ma foi, on en a eu un débat hors micro.
Alors,
très
fait,
intéressant.
Ce qui m'a intéressé, dans ma famille, on n'était pas très politisés. Mon père et ma mère sont algériens, ils sont arrivés en 63 à Marseille. Et on n'a jamais été très politisé sur la question, on ne s'y intéressait pas. Mais quand même, à l'âge de 14 ans, mon père a acheté une encyclopédie sur la guerre d'Algérie afin que je puisse m'éduquer, parce que mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Et je me suis plongé dans l'étude de la guerre d'Algérie. J'y ai vu des images extraordinaires, parce que l'encyclopédie était truffée de photos, et il y a beaucoup, beaucoup d'images sur la guerre d'Algérie. Et ensuite, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait, du côté français, l'idée que sans la France, l'Algérie n'existait pas ou n'aurait jamais existé. Et du côté algérien, il y avait une autre version. Je me suis dit, oh oh. Et ça créait des tensions et ça créait aussi, il y avait aussi énormément de tabous et de chapes de plomb sur des sujets qu'on ne voulait pas aborder. Donc je me suis posé des questions, j'ai lu énormément, j'ai lu les militaires français, j'ai lu l'histoire de France, d'Algérie et de France en 1830 quand les Français débarquent à Sidi Férouche. Et ensuite de ça, j'ai avancé dans le temps, jusqu'à 1954, la Toussaint Rouge. Et à l'intérieur même de l'appareil FLN, comment les choses fonctionnaient, jusqu'à la fin de la guerre. Et je me suis dit, ok, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand c'est aussi riche, aussi dense et aussi complexe que ça, il y a matière à faire du cinéma.
Donc l'idée est venue de ton film, ce choix d'aborder la guerre d'Algérie d'un angle différent par rapport à ce qui est t'es déjà dit et surtout réalisé, parce que le français, c'est voilà, c'est la France.
Ah oui, alors les films qui ont été réalisés jusqu'à présent ont été faits par ce que j'appelle des Gaulois de souche Astérix, des Français de souche Astérix.
Voilà.
Moi, je suis Français de souche Abdelkader.
Voilà.
Donc, je voulais, et tous ces films-là mettaient surtout en scène le traumatisme de personnages blancs français.
Tout à fait.
Jamais on ne voyait l'arabe et jamais on entendait le point de vue de l'arabe.
Ouais.
Je me suis dit, si je fais un film sur le sujet, je veux entendre parler arabe. Et je veux voir des personnages arabes qui expriment leur position et leur point de vue.
Je parlerai du casting parce qu'il est très très bien. Comment tu pourrais toi définir cette œuvre? Parce que c'est un spectacle.
C'est un film de divertissement, voilà. C'est pas un film historique.
C'est vrai que c'est un spectacle, on voit, il y a de belles images. Donc c'est un divertissement.
C'est un divertissement avec un peu comme les Américains l'ont fait avec Voyage au bout de l'enfer. On sait que c'est une fiction. Mais on sait que ça s'est passé au Vietnam et que ce qu'on voit à l'écran, c'est réellement passé. Donc, quand on regarde mon film, toute l'histoire est une fiction, mais les événements et les comportements et les discours tenus à l'intérieur ont eu lieu dans la réalité.
Donc, c'est une version romancée de, j'allais dire, de ta propre réalité à toi, de la guerre d'Algérie. La fiction s'y mêle, c'est parce que c'est un film.
Alors, ma propre réalité, non, parce que je ne l'ai pas connue, la guerre d'Algérie.
Non, la réalité, propre vision, pardon.
De ma propre vision.
Voilà, parce que tu as beaucoup lu, regardé, tu le disais, là, tu ne voulais pas forcément parler de la guerre au départ, parce que c'est une histoire, il y a même une petite histoire d'amour dedans. À la fin, pour ceux qui ont vu qui vont voir le film ou qui l'ont vu ce matin, puisqu'il est, je le rappelle, un peu partout dans toutes les salles, et j'espère qu'il va rester longtemps avec un sang impur. Donc, tu voulais montrer aussi ce cauchemar du passé qui existe encore chez certains, que ce soit algériens de l'autre côté de la Méditerranée ou chez les Français, puisque c'est une guerre. Il y avait un documentaire, un film, une guerre qui ne dit pas son nom.
C'était une guerre sans nom.
Ouais.
Ça, c'était la terminaison, la définition de la guerre, c'est quand un pays déclare une guerre à un autre pays. Mais à l'époque où les bombes commencent à exploser, le FLN commence à faire exploser les bombes en 54, le jour de la Toussaint, l'Algérie, c'est la France, c'est un département, c'est même trois départements algériens, mais qui sont des départements français qui appartiennent à la France. Mmh. C'est comme si demain, par exemple, la Bretagne se mettait à faire sauter des bombes et qu'il y avait un mouvement d'une dizaine de mecs qui dit « Nous déclarons la guerre à la France, nous voulons que la Bretagne soit indépendante ». Les médias vont présenter la chose comme étant non pas une guerre, mais des actes de terrorisme. Voilà, c'est parce qu'un pays ne déclare pas la guerre à lui-même. Et en fait, la guerre d'indépendance s'est déclenchée, donc il n'était pas question de reconnaître que c'était une guerre, parce que si le gouvernement français reconnaissait que c'était une guerre, implicitement, il reconnaissait que l'Algérie n'était pas son pays.
C'est
ça qui est intéressant.
Voilà, c'est ce qui est dit dans le film. Oui. D'ailleurs, j'ai lu le dossier de presse et tu parles de cette façon pour expliquer justement. Je le disais, l'histoire de ce film, c'est l'histoire de milliers d'Algériens et de Français de cette période. Toi, tu voulais montrer quel message tu voulais leur adresser à ces deux peuples qui, aujourd'hui, en parlent même 57 ans après.
Alors, les Algériens... C'est une plaie qui s'est fermée en Algérie. Ouais. Attention, l'Algérie et les Algériens... Mmh. Donc, les gens qui peuplent l'Algérie et qui se battent
Qui sont
manifestent chaque jour pour leur pays, de l'autre côté de la Méditerranée, pour eux, c'est réglé le problème de la guerre d'indépendance. Ils ont un autre problème. Ils se sont débarrassés du colonisateur français, mais aujourd'hui, ils voudraient se débarrasser des prédateurs algériens, les gens du FLN. Et c'est pour ça que chaque vendredi, des centaines de milliers d'Algériens manifeste, ça s'appelle le Hirak. Ils veulent la vraie indépendance et la vraie liberté. Donc, quand on
leur parle... Ils la réclament d'ailleurs de cette façon.
Ils la réclament, et pacifiquement. Quand on parle avec des Algériens d'Algérie, ils vous disent, oui, il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu du malheur, c'est triste, mais maintenant on est passé à autre chose,
on
a d'autres problèmes. Ça fait partie de l'histoire. En revanche, en France, quand on parle aux Français de la guerre d'Algérie, tout le monde monte sur ses grands chevaux, tout le monde commence à se justifier. Alors, on a les Français de souche algérienne qui disent « on va pas demander pardon », alors que personne ne leur a demandé. Et il y a les Français d'origine algérienne qui disent « on a souffert ». T'as souffert où ? T'es né à Aubervilliers dans les années 80, qu'est-ce que t'as connu de la guerre d'Algérie ? Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi ? Donc, nos ancêtres, alors ça, c'est comme en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde avait été résistant. Et ben là, à la fin de la guerre d'Algérie, tout le monde était moudjahidine.
Tu as voulu donner une image de ce qu'est la guerre, finalement.
Oui, avec ses contradictions et ses complexités. Montrer que il n'y a pas de camp du bien et il n'y a pas de camp du mal absolu. Et surtout, j'ai situé le film en 1960. Et il faut savoir qu'en 1960, on était dans l'ensauvagement des deux côtés. Et qu'il y avait zéro pitié. Zéro pitié. C'était à celui qui resterait debout, avec l'arme à la main, devant le cadavre de son ennemi. C'était ça la règle. On était rentré dans une logique de haine, mais vraiment une logique de haine et qui n'était plus une logique purement guerrière pour une cause. Et une cause qui était juste, c'est la cause d'indépendance. Parce que les Algériens ont souffert de la colonisation et il était temps que ça s'arrête. La colonisation est une infamie, tout comme l'esclavage.
C'est un film pour ceux qui vont le voir. J'aimerais bien avoir leur avis, parce que moi je l'ai vu deux fois. Et c'est vrai que c'est un film dur. Mais en même temps, il faut pas fermer les yeux, il faut voir. Justement, c'est un sujet que tu aurais pu aborder d'une autre façon, mais tu l'avais envisagé de cette façon. On peut en parler justement du pitch, un peu le synopsis en deux mots.
Oui.
J'ai pas commencé avec exprès, mais
c'est l'histoire d'un officier qui a connu la guerre d'Indochine. Alors, pourquoi j'ai pris un soldat de la guerre d'Indochine ? Parce qu'il faut savoir que la guerre d'Indochine a inspiré le mouvement contre-révolutionnaire du FLN. C'est-à-dire que il y a des Algériens qui ont fait la guerre d'Indochine dans l'armée française. Mmh. Et quand ils sont rentrés au pays, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des saloperies, des problèmes. Et les Chibani qui étaient en Algérie leur ont dit « Tu t'es battu pour l'armée française en Indochine, mais regarde ce qu'elle nous faisait pendant que toi, tu te battais pour eux là-bas en Indochine chez les Vietnamiens. » Et ces soldats algériens, qui étaient de grands guerriers, avaient constaté que les Vietnamiens arrivaient par une technique de contre-guérilla, ce qu'on appelle une guerre asymétrique, c'est-à-dire c'est pas une armée totale face à une autre armée, c'est une guerre de rébellion, de guérilla, d'embuscade. Ils se sont rendus compte que les Vietnamiens avaient réussi à faire tomber le pouvoir colonial français. Et ils se sont dit, on va s'inspirer de cette guerre asymétrique. Et ils l'appliqueront au sein du FLN, et ils l'appliqueront aussi de manière plus terrible encore, puisque des bombes seront posées dans les grandes villes, particulièrement à Alger, ce qui mènera l'armée française et les parachutistes à prendre le pouvoir et à attaquer et la Casbah et les Algériens et à torturer. Voilà, parce que la torture, c'est le grand chic de l'armée coloniale française pendant les 8 ans de guerre. Mais en face, ils ont aussi des types qui sont décidés à brûler le pays, à aller jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au pire, pour convaincre et la population, et l'armée, et le gouvernement français qu'il faut quitter la terre d'Algérie. Le pays est à nous, maintenant. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on réclame, il n'y a rien d'autre.
Et donc le film...
Et le film montre cette brutalité, et donc je prends ce personnage de vétéran indochinois qui est dégoûté, qui vit avec une nana qui était une supplétive, c'est-à-dire le peuple Hmong, qui, elle n'est pas vietnamienne, mais elle s'est battue du côté des Français. Parce que les Hmongs ont subi la hagra des Vietnamiens et des Chinois. Quand les Français sont arrivés, ils se sont dit, on a des connexions et spirituelles parce que leur religion et leur spiritualité se rapprochent du catholicisme, donc on a des affinités avec la France, on va se rapprocher de la France et on va les aider à combattre nos ennemis de toujours, c'est-à-dire les Vietnamiens et les Chinois. À la fin de la guerre, alors que la France a utilisé les Hmongs, elle va les abandonner comme la France abandonnera plus tard les Harkis. Et donc cet homme, il vit avec cette femme, il est alcoolique, il est bouffé par ses cauchemars, rongé par ses remords,
névrosé,
il est faible. Et il y a une femme qui vient, la mère d'un officier français, qui a été l'officier supérieur de mon héros entre guillemets, le colonel Breitner, et elle lui dit... Allez chercher son cadavre du côté des Aurès Nemencha. Elle lui remet des papiers avec la localisation probable du corps et du camp des Felaga. Elle lui dit ramener le corps. Et lui, il se rend en Algérie. Il récupère des types qui n'ont plus rien à perdre. Un soldat noir, le sergent-chef Sangor, qui a refusé de tuer des enfants algériens dans un village. Un autre qui est un soldat engagé, raciste, qui est venu pour faire mieux que son père, qui était en Indochine, qui est mort et qui fait peur. c'est Martilla. Et ils récupèrent aussi, parce qu'ils n'ont que 5 jours pour accomplir la mission et rejoindre le camp Felaga, ils ont besoin de passer par un endroit qui est un raccourci, et ils vont récupérer, mais ce raccourci, il est truffé de mines. Et ils vont récupérer, sur un coup de pression au chantage, une Algérienne du FLN qui est prisonnière de l'armée française, et il va lui dire « Ta mère est prisonnière des parachutistes, soit tu viens avec nous, soit tu restes en prison et on t'envoie sa tête en cellule. » Passera ton temps en prison avec la tête de ta mère.
C'est là où le film
démarre. Et là, c'est là que le film démarre.
Il démarre avant, mais je veux dire, c'est là où l'histoire commence à être un peu... je vous laisse aller voir ce film, le film qui est sorti aujourd'hui de Abdelraouf Dafri, notre invité, ce grand cinéaste. Mais aujourd'hui, premier film réalisé par Abdelraouf Dafri, 1500 impurs. On va s'arrêter, on écoute 2 minutes de musique. Un choix parfait. James Brown, Rachita, on va peut-être commencer par Rachita, allez, je l'aime bien, puis que Dieu ait son âme. Fakir, si tu veux dire un mot après, on l'écoute et on revient avec toi. Abdelraouf Dafri sur Beur FM.
Café des Artistes
revient dans un instant.
20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
On a écouté Rachita, juste un petit extrait juste avant le break avec le titre Fakir, le rock français, l'un des plus grands rockers français qui était reconnu à l'étranger mais pas en France. C'est un peu aussi le sujet de ton film, qu'un son impur plutôt, j'allais dire pur, impur de Abderraouf Dafri qui est notre invité ce soir. Le film sort aujourd'hui dans les salles en France. Rachita, pourquoi ?
Ben parce que Rachid est d'abord un grand auteur-compositeur. C'est un grand musicien. J'ai eu l'occasion de le voir bien avant qu'il ne nous quitte. Et on s'était vu plusieurs fois, on s'entendait à merveille. J'avais déjà beaucoup d'admiration avant de le rencontrer. J'en avais encore plus après que je l'ai rencontré et qu'on a dîné plusieurs fois et on s'est raconté des, des tas de trucs. Et il me parlait de ses souvenirs de musiciens, des stars du rock avec lesquels il a travaillé. Moi, j'étais admiratif. En fait, on était dans une admiration mutuelle parce que lui, il adorait ce que je faisais. Moi, j'adorais ce qu'il faisait. Et ce morceau Fakir est très intéressant parce que, en fait, c'est pas le fakir, le type qui se couche sur la planche à clous. C'est le mot arabe qui veut dire souvenir. Et il y a une chose extraordinaire. J'invite tout le monde à écouter tous ses albums. Il a réussi à trouver la jonction entre l'anglo-saxon, le rock anglo-saxon et l'arabéité. Et un jour, on lui a demandé, parce que Rachid est né en Algérie, et après, il est arrivé en France, et on lui disait, mais vous êtes quoi, algérien ou français?
Ah oui, la
formule. Et sa formule est extraordinaire, c'est une réplique extraordinaire, il dit comme ça, algérien pour toujours, français pour tous les jours.
Et d'ailleurs, j'ai commencé par ce titre, c'est ton choix, hein, parce que c'est ton film Qu'un sang impur, c'est vrai que c'est un film de guerre, mais c'est aussi un film engagé, j'entends par là, un film d'éveil, de revendication. Il évoque la notion d'identité française. J'imagine que c'est la raison pour laquelle tu as écrit, réalisé ce film, et un peu, Rachita, je pense que c'est un peu pour ça, parce qu'il était, ses chansons, c'était sur... l'identité aussi française.
Oui, oui.
On peut être né en Algérie, devenir français à part entière ou...
Alors, moi, sur l'identité, je sais une chose sur l'identité. C'est que l'identité est celle que l'on choisit. Mm-hmm. Mais on ne peut pas se partager en deux. Je veux dire par là que moi, je le dis souvent, je suis français. Je suis né en France, je suis français. Mais... ma terre d'origine, c'est le ventre de ma mère. Et il se trouve qu'elle est algérienne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Rachid est né en Algérie. Il est arrivé en France. Il a fait un parcours exceptionnel en France. Je connais beaucoup d'Algériens, de Marocains, en particulier les Algériens, parce que les Marocains, ils ont la double nationalité d'office. Et c'était ce que leur roi Hassan II voulait. Mais je connais beaucoup d'Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés ici et qui sont devenus... qui ont fait des réussites exceptionnelles et qui maintenant ont les papiers et sont français. Mais être algérien, pour moi, ou être français, c'est très simple. Un français, c'est quelqu'un qui vit en France et qui décide de construire sa vie et sa famille en France. Ça, c'est un français. Après, il y a l'algérien. L'algérien, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcé qu'il soit né en Algérie, c'est pas forcé qu'il soit né en France. C'est quelqu'un qui choisit un pays où il va construire toute sa vie, où il va mettre tout son investissement. Après, il y a le français qui se dit algérien, mais qui n'y va que 2 mois par an en Algérie. Et quand on lui dit « Pourquoi tu ne vis pas là-bas ?», il dit « Ah non, 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 c'est compliqué. Juste pour les vacances, ça suffit. » Ça, ce n'est pas un Algérien, c'est un Français. Et en Algérie, on appelle ça un touriste.
Ben voilà, il va pour le soleil peut-être. Quelle réaction, toi, tu souhaitais susciter chez le spectateur par ce film Qu'un sang impur ?
Alors, moi, mon principal but avec ce film, pardon, c'est de divertir. Et je l'espère de faire réfléchir. J'espère que le public, les gens qui iront voir mon film, qui posent de vraies questions, on va être très surpris parce qu'il n'y a pas de clichés. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de camp du bien ou du camp du mal absolu, et que tout le monde change à un moment de frontière, passe d'un camp à l'autre, on ne sait plus réellement où on en est. Et que j'espère que les spectateurs et les spectatrices qui iront voir le film se diront « faut que j'ouvre des livres », qu'ils s'interrogent, que le film les pousse à réfléchir
après. Les bonnes questions.
Qui se posent les bonnes questions, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus les choses de manière binaire. Les méchants Français, les gentils Algériens. Non. Le mal était des deux côtés. Et il y avait des gens extraordinaires du côté algérien. Je prends Assia Bentaouda, qui est jouée par Lina Koudri, qui est un personnage extraordinaire. Elle dit des choses que les Algériens qui sont en Algérie et qui ont connu et qui se sont documentés sur cette guerre vont comprendre parfaitement. Les autres, un peu plus difficilement. Mais le film dit des choses en sous-texte, parce que j'ai énormément étudié et je ne pouvais pas prendre parti pour le FLN, parce que je savais ce qu'il avait fait. Je ne pouvais pas prendre parti pour l'armée coloniale, malgré que je sois français. Mais je voulais montrer toutes ces ambiguïtés-là. Et mon film n'est dédié qu'à ceux qui n'ont pas eu le choix et auxquels on a imposé cette guerre. Mon film est dédié au peuple algérien qui a souffert et aux jeunes appelés français qui sont arrivés là-bas. On ne leur a pas dit que c'était une guerre. Ils n'étaient même pas préparés. Et du côté des morts français, ils représentent le tiers des victimes, ces gens-là. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gros des victimes dans une guerre est décompté, on se rend compte qu'il s'agit de gens qui n'étaient pas préparés ou entraînés. C'est intéressant, hein.
On a le sentiment que tu voulais titiller les consciences et les mentalités, et je pense que ça va marcher. Tu as traité dans sa globalité, me semble ainsi très enrichissant, comme une réflexion sur ce qu'est la guerre. Il n'y a pas de méchants d'un camp, d'un autre, mais ils sont plus ou moins, ça dépend. Et là, tu l'as dit, ils circulent dans... Comment tu pourrais décrire tes personnages en quelques mots? Parce que là, tu parlais du rôle de Lina
Koudri,
qui a été juste excellente. Et puis tous les autres, le casting, comment c'est qui parce que c'est toi qui as écrit, et c'est bien quand on écrit un film, le réalise. On a peut-être des images. Tu as écrit en pensant à certains, ou comment ça s'est passé?
Non, la seule fois dans ma vie où j'ai écrit en pensant à un acteur, et encore, pardon, cet acteur m'a dit de ne pas penser à lui, et c'est Vincent Cassel pour Mesrine. Et je me souviens que je savais qui était l'acteur principal qui jouerait Mesrine. Donc, et je voulais que ce soit Vincent, Jean-François Richer aussi, ainsi que Thomas Langman. Et Vincent a adoré l'angle d'attaque que prenait l'histoire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a signé. Et c'est la seule fois où j'avais un acteur identifié par rapport à un rôle principal. Et on ne se connaissait pas, Vincent et moi. Et Vincent m'a dit un truc qui m'a libéré. Il m'a dit, à l'époque de Mesrine, alors que j'étais en écriture, il me dit, tu sais, n'écris pas en pensant à moi. Moi, mon taf, c'est d'interpréter le personnage. Donc pour mes autres films, et en particulier pour ce film-là, qui est mon premier en tant que réalisateur, je n'ai pas pensé aux comédiens. Mmh. J'ai pensé à écrire le plus justement possible, à caractériser les émotions, les comportements, le champ lexical au niveau des dialogues d'un personnage. Et après ça, je rencontrais des acteurs qui m'inspiraient. Il y a des essais qui ont été faits. Lina a fait des essais. Selim Kechiouche, qui joue Boukarouba, l'impitoyable chef du FLN, il a fait des essais. Tout le monde a fait des essais. Et c'était extraordinaire. Il y avait une comédienne, en fait, il y avait un personnage, pour être totalement honnête, auquel j'ai pensé, et elle n'a pas eu besoin de faire d'essais. C'est Annie Mercier, qui joue le rôle de Madame de Linière.
Ah oui,
Elle est exceptionnelle, c'est une grande dame de théâtre. Elle avait déjà joué dans Braco 2, elle jouait Madame Arifa, une mère juive gangster. Et j'avais été tellement époustouflé par sa prestation dans la saison 2 de Braco, c'est Philippe Haïm, le réalisateur, qui l'avait trouvé. J'ai dit, il faut que je retravaille avec elle. Et là, quand elle est venue de sa campagne, elle me dit, moi, je ne prends pas le train avec sa grosse voix, je ne prends pas le train pour rien pour venir jusqu'à Paris. J'ai lu ton scénario, il est extraordinaire, je vais le faire. J'ai dit... Ok Annie, il n'y a pas de souci, le rôle est pour vous. Et voilà, et c'est la seule à laquelle je pensais, et j'ai écrit en connaissant le timbre de sa voix son phrasé.
Elle a une voix très grave. C'est vrai que c'est l'un des points très forts du film, c'est les comédiens, ces acteurs. Qu'est-ce que tu avais en eux pour les choisir finalement? Parce qu'ils ont passé le casting comme tout le monde, mais tu les as choisis. Selim Kechiouche est juste formidable, et tout le monde dans ce film a joué le rôle, et c'est pour ça que j'avais l'impression que tu avais pensé en écrivant, bon, ça c'est, je fais de la radio, je sais que c'est pas vrai, mais tellement ils étaient bien. Est-ce que tu as mis longtemps à les trouver finalement, ces comédiens?
Alors il y en a certains pour lesquels ça a été un peu plus facile. Là où c'était le plus dur, c'était pour Assia Bentaouda, la fille du FLN spécialisée en explosives, qui est interprétée par Lina Koudry. Et c'est vrai que j'ai galéré. Là, j'ai vraiment galéré parce que je voulais une jeune femme intelligente, belle, mais pas trop, parce que quand même, il y a un déterminisme quand on vit dans le maquis, le visage est marqué, il me fallait pas un mannequin, hein, je voulais pas que les gens se marrent dans la salle, ou même ma famille, en me disant, c'est quoi ça, c'est les mannequins Felaga, c'est nouveau ça, hein. Donc, il me fallait une jeune femme très intelligente et vraiment très, 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 très douée, et il se trouve que Lina Koudry est une jeune comédienne très intelligente, mais vraiment,
elle
très
monte,
cultivée.
Elle monte.
Ah, mais moi, je pense qu'elle a pas fini elle a pas fini de nous illuminer avec son talent, parce que c'est une belle personne intérieurement et c'est un bel être humain, quoi. Donc, en plus de ça, c'est une vraie, vraie, vraie comédienne, quoi. C'est pas une blague.
C'est vrai qu'elle joue de tout pour arriver à un tel résultat de ce film. Qu'un sang impur, j'imagine qu'il y a eu un gros travail en amont, c'est-à-dire pour est-ce qu'on peut revenir sur la phase de pré-production du film, parce que le film il a été tourné, je pense, au Maroc.
Oui, il a été tourné au Maroc.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué.
L'Algérie, c'est très compliqué.
c'est très compliqué.
En fait, c'est simple, c'est pas les Algériens le problème, c'est l'administration qui est au pouvoir.
Les Algériens sont.
Les Algériens sont un peuple formidable.
Ça
et j'en connais
plaisir.
Beaucoup. Et j'ai fait très attention, par exemple, dans le langage. Maintenant, pour parler dans le langage, je voulais pas qu'on entende parler en marocain ou des mots de marocain. Donc, j'avais un linguiste algérien, Slam, qui est comme un frère et que je salue au passage, et qui a écrit une chanson pour le film à un certain moment, une chanson en algérien. Donc, c'est lui, il veillait à ce que mes acteurs, parce qu'il y a des acteurs marocains qui tenaient des petits rôles, il veillait à ce que les mots en arabe soient vraiment du jazzaïli.
J'avais remarqué ça, même s'il y a parfois un mot qui a glissé, mais bon, après, on pardonne. Dans ton film, tu accordes justement beaucoup d'importance, beaucoup de place au langage de rue aussi, hein, aux gestes, au langage cru. Hein, est-ce que cela caractérise aussi ton cinéma?
Non, ça caractérise l'époque.
À l'époque.
Parce que moi, j'ai écouté, par exemple...
Parce que moi, j'étais un peu surpris.
Oui, je sais.
J'ai dit, ah oui, il parlait comme ça dans
Oui, il parlait comme ça.
Ah ouais.
Les Arabes, ah oui, tu veux dire les mots en arabe. Alors oui. Ça, c'est intéressant, parce que c'est marrant que tu mettes le doigt dessus. Parce qu'à un moment, il y a un personnage algérien, il faut le dire aux spectateurs, qui s'attaque à une femme. On va rien dévoiler.
Non, je te laisse.
Il lui dit en arabe, Ya Wahda Kahba. Et le personnage, le linguiste Slam me dit, tu sais, c'est un mot très dur en arabe. Oui, je sais. Mais moi, j'ai entendu beaucoup d'arabes le prononcer en arabe quand ils oulet bismillah, et quand ils perdent la tête, ils ne jmouya hadrou kemaka. Et il m'a dit, oui, ils peuvent parler comme ça. J'ai fait, donc on va le garder, parce que je vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Et c'est vrai que pour les arabophones, qui comprennent parfaitement, c'est vrai que il tique un peu. Ma mère a vu le film, elle m'a dit c'est marrant, on dirait de ton père.
Je mets le doigt parce que c'est pas que ce mot. Il y en avait. Dans la scène, il y avait toute une série. Mais je me suis dit, c'est bien, c'est du cinéma. Et puis j'étais juste étonné qu'il parlait comme ça. Après, sinon.
Oui. Il y a eu des. Ouais. Il faut pas oublier que une partie des gens du FLN ont massacré d'autres Algériens, les ont rackettés. Mmh. Donc, sincèrement, je crois que quand on en est à égorger ses propres frères, il y a le langage cru, c'est juste une petite option.
Ah
quoi.
Non, c'est juste, je voulais mettre... Après, j'ai du mal parce que j'ai envie de raconter le film et je peux pas, parce que... voilà. Donc, c'est pour ça que je fais très, très attention. C'est très difficile, hein, parce que j'ai envie de lancer comme ça des anecdotes, mais j'ai pas le droit. James Brown, pourquoi ce choix? On va s'arrêter 2 petites minutes ou 1 minute.
Alors, c'est simple.
Tout dépend de Fabrice.
Quand j'étais disque jockey en boîte de nuit... un jour, j'étais embauché dans une boîte de nuit et j'ai passé Sex Machine de James Brown. Mm-hmm. Et le patron est arrivé depuis le bout de la salle en criant « Non, faut pas passer ça, ça va m'attirer les Arabes
!» J'adore.
Donc, et maintenant, James Brown, on l'entend partout, c'est très chic, très bobo. À l'époque des années 80, quand j'étais disque jockey en boîte de nuit... Il ne fallait pas le passer parce que ça attirait les Arabes.
Et ben voilà, c'est très drôle. On va bien l'écouter, c'est le choix d'Abdel Raouf Dafri, notre invité ce soir pour parler du film « Qu'un sang impur » qui sort aujourd'hui dans les salles. Je vous invite d'aller le voir.
once in my life I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dream come true. Baby, for once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me before. For once I have something I won't desert me. I'm not alone anymore. Won't desert me. For once I can say this is mine. You can't take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Yeah.
Café des artistes.
On revient dans un instant.
20h, 21h, Café des Artistes, le magazine de toute l'actualité culturelle avec Mourad Achour sur Beurre FM.
Abderraouf Dafri, notre invité ce soir, Qu'un sang impur, c'est le film qui sort aujourd'hui partout en France. Il est sorti ailleurs, en Europe, en Belgique, en Suisse ou pas?
Ça va venir, c'est-à-dire que pour être très très honnête, même en France ça a été très compliqué pour sortir le film parce que d'abord il faut savoir que mon producteur Marc Missonnier, auquel je rends hommage, sans lui le film n'existerait pas.
Ouais.
Et pour dire que l'histoire est formidable parce que moi je m'appelle Abderraouf, je suis né à Marseille. Lui s'appelle Marc Missonnier, il est né à Oran.
Ouais.
Donc, mais ses parents n'étaient pas pieds noirs. Son père était un ingénieur. Ils ont vécu longtemps. Et l'année dernière, alors que j'étais sur mon film en tournage et en montage, je crois, Marc est parti en pèlerinage en Algérie avec ses parents. C'était très émouvant parce que ses parents sont tous très amoureux de l'Algérie et que quand on la voit une fois, c'est difficile de ne pas y revenir, l'Algérie. Et donc la programmation a été très très compliquée pour la sortie du film, de convaincre et même déjà de faire distribuer le film. Heureusement, Mars Film nous a suivis, mais tous les autres distributeurs du cinéma français l'ont refusé. Pourquoi? Parce qu'il disait « J'ai peur que les exploitants de salles refusent le film parce que ça va attirer les Arabes ». Voilà où on en est encore en 2020.
C'est
consternant.
C'est consternant surtout que c'est ce public arabe, entre guillemets, un public consommateur.
Voilà.
Et parfois, on remplit les salles de spectacle grâce à ce public-là qui est magnifique. C'est vrai que quand on fait des films, on pense... Toi, je ne sais pas si tu as pensé à la faiblesse du cinéma... Sur les films de guerre, c'est beaucoup de réalisateurs, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Pourquoi je dis beaucoup de réalisateurs? Il y a très peu de films sur la guerre d'Algérie en France.
En fait, il y en a très peu de marquants.
Ouais.
Le plus marquant, il y a les films de René Vautier, qui était un militant communiste, qui a été appelé et qui militait contre la guerre d'Algérie. Il y a le film de... Il y a Avoir 20 ans dans les oreilles de Vautier. Il y a RAS d'Yves Boissé. Il y en a un très raté de Florent Emilio Siri qui s'appelle L'ennemi intime.
Ah oui, je l'avais
vu. Et après ça, globalement, les autres sont ratés. Le seul qui est vraiment, vraiment réussi, c'est La bataille d'Alger de Pontecorvo.
Ah oui.
Produit par un ancien du FLN qui était un rebelle qui s'appelle Yassef Saadi.
Ah oui.
Voilà. Et à la musique du film de Pontecorvo, La bataille d'Alger. C'est Ennio Morricone, parce que le film était franco-italien, majoritairement italien.
Voilà, et la musique du film, on le rappelle, c'est Eric Neveu, c'est ça?
Ah, Eric Neveu est extraordinaire. Il est arrivé, j'avais pris un compositeur, mais hélas, c'est pas que ce compositeur était nul, c'est qu'il avait pas compris où je voulais aller directement, à moins que ce soit moi qui me sois mal expliqué. Mais Eric, qui est prodigieux, il y a une symbolique forte, c'est que la toute première série que j'ai écrite, qui s'appelle La Commune pour Canal+, il s'est avéré que c'était Eric qui avait fait la musique. Et Eric rêvait à nouveau de travailler avec moi. Et maintenant, c'est sur mon premier film. Donc, la symbolique est forte. Et il a composé une musique. La bande originale sortira bientôt en France. Et il a fait un travail magistral. Et il est vraiment arrivé en backup. Je ne le remercierai jamais assez. Et l'une des meilleures manières de lui prouver ma reconnaissance, c'est sur mon prochain film, Eric, on est ensemble.
Voilà, et moi je vais pas dévoiler, mais allez voir le film et regardez le générique de fin. C'est tout ce que je peux dire, sinon je dévoile tout. Comment a été perçu le film déjà lors des avant-premières, les festivals? Je pense qu'il a été aussi par la presse, pour les gens qui l'ont déjà vu.
Pour les festivals, tous les festivals l'ont refusé.
Voilà. Ah, carrément.
Oui, carrément. Bon, en revanche, j'ai fait avant-première Marseille, Nice et Lille. Pour te donner une idée de l'engouement. D'abord, les gens se prennent le film en pleine tronche parce que le film est assez dur et implacable. Est très émouvant aussi. Il est âpre, mais il est émouvant. Et à l'issue de la projection, j'ai fait un débat à Lille. Les gens n'arrêtaient pas de m'abreuver de questions. Ça a duré une heure. Après, il fallait quitter la salle parce que c'était un UGC. Ensuite de ça, à Marseille, c'était une salle art et essai. Il y avait des Chibani algériens qui ont connu cette période-là. Il y avait des pieds noirs. Il y avait des Marseillais, des plus jeunes, il y avait beaucoup de femmes. J'étais agréablement surpris de voir autant de femmes malgré la dureté du film. Le débat a duré 1h45 alors que le film dure 1h49. Tout le monde voulait me poser des questions et tout le monde avait quelque chose à dire sur la guerre d'Algérie, en particulier les Chibani. Et à Nice, le débat a duré dans la salle de Mario au pâté gare du Sud. Mario m'a dit « Bon, je sais que ça a duré 1h45 à Marseille, chez moi j'ai une autre projection derrière ». Il faut que ça dure 45 minutes dans la salle. Ça a duré une heure parce que Mario a été très souple. Et ensuite, il nous a proposé aux spectateurs et à moi de poursuivre les débats dans le hall du pâté. Et là, ça a duré une heure et demie de plus. Calcul, ça fait 2h30.
Donc c'est une belle victoire.
C'est une belle victoire. Le public aime le film et n'est pas rebuté. Il est bousculé. Et il se dit waouh.
Oui, c'est ce,
ça envoie des choses, quoi.
C'est l'impression que j'ai vue la première fois parce que je l'ai vue une deuxième fois. Évidemment, c'était aussi dur et fort, mais c'est vrai que ça m'a dit waouh. Ta vocation pour le cinéma, donc ça y est, c'est bon. Donc, on sait comment t'es parti, et là, t'es encore parti pour longtemps en tant que réalisateur. Ça change de passer de l'autre côté quand on écrit une histoire, mais on la réalise, c'est différent.
Oui, c'est différent.
Tu préfères?
Je préfère. Pourquoi? Parce que ça me fait progresser.
Oui, en même temps, tu fais ce que tu veux. Après, parce qu'on imagine le film et on l'écrit, mais après, le mettre en œuvre, c'est...
Voilà, c'est une autre affaire. J'ai découvert pourquoi, des fois, je me prenais la tête avec certains réalisateurs sur mon scénario. Et quand je dis « je me prenais la tête », c'est-à-dire qu'on discutait sur certains trucs. Et ils m'expliquaient que, voilà, il y a ce qu'on appelle un travail d'adaptation pour pouvoir tourner. On ne peut pas illustrer un scénario. Quand on illustre un scénario, à la virgule près, on rate son film. Et à un moment, Abdelraouf Dafri, le réalisateur, s'est battu avec Abdelraouf Dafri, le scénariste. Et j'ai appris plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, après cette expérience, et j'en suis persuadé, je suis meilleur scénariste qu'avant. Donc,
parce qu'on écrit les sensations du personnage, et dans le film, il faut pouvoir les montrer. Et ça, c'est ton travail seul dans ce que tu as fait. Le film raconte une histoire, puis dans le dossier de presse, il y a plusieurs photos et on voit une photo avec le drapeau français. Je ne sais pas s'il faut raconter, je ne sais pas. Tu as compris ce que je voulais dire? Oui. Le drapeau algérien, c'est pourquoi ces deux photos?
Alors, c'est simple. Pour moi, les drapeaux, pour moi, même si ce sont des symboles extraordinaires...
Et ça, c'est une scène.
Oui, c'est la scène des drapeaux, au début du film.
Au début du film, en extrait.
Qu'est-ce qui se passe quand on attaque une forteresse sur laquelle il y a les couleurs ou les bannières d'une famille riche, comme dans Game of Thrones? On fait descendre la bannière, et on met sa propre couleur. Voilà. Et ben là, il y a des gens qui ont mis leur propre couleur. Mais il faut voir le film pour comprendre de quoi on parle, toi et moi, parce que ça semble un peu elliptique.
Oui, voilà. C'est pour ça que moi, je donne comme ça des idées, puis aux auditeurs de Beurre FM, d'aller voir le film. Ben, je regarde l'heure. En même temps, j'ai d'autres questions, mais je crois que je vais arrêter là. Allez voir ce film, Qu'un sang impur. Pourquoi l'avoir appelé comme ça?
C'est simple, c'est une expression qui date de l'époque napoléonienne. Et le sang impur, ça n'a rien à voir avec la race, parce que Rouget de Lisle, le type qui a écrit la Marseillaise, n'a jamais vu un noir ou un arabe ou un chinois de sa vie, à l'époque où il était de son vivant. Donc il ne voyait que des gens qui avaient sa tête. En revanche, l'expression sang impur, c'est une expression qui veut dire ennemi. En fait, le sang impur, c'est toujours celui de l'ennemi, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur. Donc Napoléon, quand il était en guerre contre les Autrichiens, qui étaient blancs comme lui, il disait à ses hommes, il faut que leur sang impur, donc le sang de l'ennemi, coule. C'est tout ce que ça veut dire, sang impur. On en a fait des... On a fait un pataquès autour de ça, comme quoi c'était racial. Non, ça, c'est des conneries.
Voilà, c'est dit.
Ça veut juste dire ennemi. Comme marche à l'ombre, ça veut dire fais-toi discret.
Ben voilà. En tout cas, merci pour cette explication. Tu donnes envie d'aller revoir le film troisième fois pour moi. Non.
Jamais 203.
Pourquoi pas, j'irai le voir avec des amis. Merci en tout cas d'être venu, Abdelraouf Dafri. Merci beaucoup. C'est vrai que je t'avais jamais reçu en tant que scénariste, mais reviens. Je pense que là, c'est parti pour le cinéma populaire et d'autres films, j'imagine, en tant que réalisateur. Tu vas pas t'arrêter là. Dis-moi oui.
Ah non, je ne vais pas m'arrêter là. Voilà, le cinéma merci. Populaire, c'est ma religion.
Voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir. On termine avec un titre et c'est Sam Cooke.
A Change Is Gonna Come.
Voilà, c'est une belle chanson pour terminer cette émission, surtout le titre. Merci beaucoup. Merci à Fabrice d'avoir réalisé l'émission. Je vous retrouverai demain à 20h pour un autre Café des Artistes. La suite des programmes, 22h, Vanessa pour Confidence. À demain, au revoir.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Trouvez Café des Artistes tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.